Chapitre 7. Piraterie. Avec la proie à portée de vue, tous les doutes de Vivacia se dissipèrent comme brume au soleil. La quête spirituelle de Yémin, ses angoisses et sa moralité rigide qu'elle avait partagée tombèrent comme des écailles de peinture d'un bois sorcier éveillé. Lorsque la voix la parut et que la vive nef entendit l'avertissement de la vigie, un instinct primitif remua au tréfond d'elle. C'était l'heure de la chasse. Quand les pirates sur le pont reprirent le cri féroce de la vigie, elle-même donna de la voix, en glapissant comme le faucon fondant sur sa proie. Après la voile, on aperçut le navire qui fuyait à toute vitesse devant la Marietta. Le vaisseau plus petit de Sorcor poussait sa prise, tandis que Vivacia, caché par un promontoire, fonçait pour engager la poursuite. Son équipage la manœuvrait comme jamais on ne l'avait manœuvré, augmentant la toile jusqu'à ce que ses mâts et ses espars fatiguent à serrer le vent. Les voiles gonflées, le sifflement de la brise sur ses joues réveillèrent en elle des souvenirs qui n'étaient pas humains. Elle leva les mains et tendit vers le vaisseau en fuite des doigts crochus comme des serres. Un bruit furieux de tonnerre emplit son corps de bois dénué de cœur et de sang en l'animant jusqu'à la frénésie. Elle se pencha en avant, amincissant les lignes pures de sa coque et gagnant une rapidité qui tira des cris de joie à l'équipage. Elle taillait la lame en faisant jaillir des gerbes d'écume blanche.
« Tu vois ?»
s'écria Kenith, triomphant en s'accrochant à la lisse d'avant.
« Tu as ça dans le sang, madame. Je le savais. Tu es faite pour ça, pas pour trimballer une vulgaire cargaison comme une villageoise qui traîne son seau d'eau. Sue donc ! Ah, il te voit ! Il te voit, regarde comme il décampe, mais cela ne leur servira à rien. »
Yéma enfonça ses doigts dans la lisse à côté de Kenith. Des larmes ruisselaient de ses yeux sous le rude baiser du vent salé. Il ne faisait pas le moindre bruit. Il contractait les mâchoires avec presque autant de force qu'il contenait sa réprobation. Mais les battements fous de son cœur le trahissaient. Son sang bourdonnait à cette poursuite effrénée. Toute son âme vibrait d'impatience. Il pouvait bien dénier son enthousiasme, il ne pouvait le cacher à Vivacia. Kenith et Sorcor n'avaient pas choisi leur proie au hasard. Les rumeurs concernant le grincheux étaient parvenues aux oreilles du second depuis des semaines. Il avait mis au courant Kenith qui prolongeait sa convalescence. Le capitaine Avery, du grincheux, s'était vanté non seulement à Jamelia mais dans d'autres ports qu'aucun pirate, aussi audacieux et vertueux soit-il, ne le dissuaderait de faire commerce d'esclaves. « Sotte forfanterie !» avait dit Kenith à Vivacia. Avery était bien connu de réputation. Il ne transportait que des cargaisons de qualité, des esclaves instruits qu'on employait comme précepteurs, domestiques et intendants. Il acheminait depuis Jamelia les marchandises les plus raffinées, des alcools fins et de l'encens, des parfums et de l'orfèvrerie d'argent. Ses clients en Chalcède attendaient de lui les plus beaux articles, les plus extravagants, et il payait en conséquence. Quoique le navire fût une cible magnifique, Kenith ne l'aurait pas choisi en temps normal. Pourquoi se risquer à défier un vaisseau rapide et bien armé à l'équipage discipliné, alors qu'il y avait des proies plus faciles à saisir? Mais Avery avait parlé une fois de trop, et sans réfléchir. Pareille impudence était intolérable. Kenith avait lui aussi une réputation à soutenir. Avery avait été insensé de la mettre en question. À plusieurs reprises, le capitaine était allé à bord de la Marietta pour mettre au point la capture avec Sorcor. Vivacia savait qu'ils avaient discuté du meilleur endroit pour dresser l'embuscade, mais ne connaissait pratiquement rien de leur plan. Ces questions curieuses n'avaient reçu que des réponses évasives. Tandis que les deux navires prenaient leur proie en tenaille, Vivacia repensa aux paroles de Yémin la veille au soir. Il avait durement condamné Kenith. « Il chasse ce navire par gloriole, pas par vertu », avait-il déclaré sur un ton accusateur. « Il y a d'autres bateaux qui transportent bien plus d'esclaves, dans des conditions misérables, dans les privations. J'ai entendu dire qu'Avery ne les enchaîne pas, qu'il les laisse circuler librement dans les cales. Il leur donne amplement à manger et à boire, sa marchandise arrive en bon état et lui rapporte de jolis bénéfices.
Si Kenick décide de poursuivre le navire d'Avery, ce n'est pas par haine de l'esclavage, c'est pour l'argent et la renommée.
Elle avait réfléchi un moment.
Ce n'est pas ainsi qu'il le ressent quand il y pense,
avait-elle fini par répondre. Elle ne s'était pas attardée sur le sujet car elle-même n'était pas tout à fait certaine de ce que Kenneth ressentait. Il y avait en lui des gouffres qu'il dissimulait à tous. Elle essaya une nouvelle tactique.
Je ne crois pas que les esclaves du Grincheux auront moins de reconnaissance à Kenneth que ceux qui sont maintenus dans des conditions sordides et les privations. Juges-tu l'esclavage acceptable quand l'esclave est traité comme un cheval de prix ou un chien de race ?
Bien sûr que non,
avait rétorqué Yéma. Et à partir de là, elle avait mené la conversation sur des voies qu'elle pouvait négocier plus habilement. Ce n'était qu'aujourd'hui qu'elle était parvenue à mettre un nom sur l'émotion sous-jacente éprouvée par Kenneth quand il parlait du Grincheux. C'était la fièvre de la chasse. Pour le pirate, le petit navire qui filait si rapidement devant eux était une belle chose, aussi irrésistible qu'aux yeux d'un chat un papillon voletant. Pragmatique comme il était, il n'aurait pas choisi de lui-même de soutenir cette gageure. Mais il ne pouvait résister non plus à l'attrait du combat quand on le provoquait. Alors que la distance entre la Vivacia et le petit Demas se réduisait, Yémin sentait monter en lui des nausées d'impatience. Maintes fois, il avait répété à Kenneth qu'on ne devait pas verser le sang sur les ponts de la Vivacia. Il avait essayé de lui expliquer que le navire serait condamné à porter à jamais en lui le souvenir du massacre, mais il n'avait pu lui donner une idée de la pesanteur de ce fardeau. Si Kenneth passait outre, s'il permettait qu'on se batte sur ces ponts, ou pire, s'il décidait d'y exécuter les prisonniers, Yéma doutait que la Vive-Neve soit capable d'assumer. Quand il s'était lancé dans son plaidoyer en faveur de Vivacia, Kenneth l'avait écouté d'un air ennuyé, puis lui avait demandé sèchement
« Pourquoi crois-tu que je l'ai capturé ?»
Yéma avait préféré hausser les épaules sans répondre. En insistant, qui sait s'il n'aurait pas poussé Kenneth à montrer qu'il était le maître du navire et du garçon. L'équipage du Grincheux était dans la mâture à manœuvrer frénétiquement les voiles. Si la Marietta l'avait pris seule en chasse, il aurait pu en réchapper. Mais la Vive-Neve, plus rapide que le Demas, était de surcroît en mesure de le pousser dans le chenal. L'espace d'un instant, Yémin crut que le Grincheux allait les doubler et gagner le large. Alors, il entendit un ordre furieux, puis vit le transport d'esclaves déventé dans un effort désespéré pour éviter de toucher au banc. Quelques minutes plus tard, la Marietta et la Vivacia l'enfermaient. Des grappins furent jetés depuis la Marietta, qui tombèrent et mordirent les ponts du Grincheux. L'équipage renonça à la fuite et s'acharna à mettre en place une défense. Les hommes étaient bien entraînés. Ils lancèrent du feu grégeois qui éclaboussa de flammes la coque et le pont de la Marietta. Ils revêtirent des armures légères en cuir et prirent des armes blanches avec une autorité désinvolte. D'autres, arcs à l'épaule, se déplaçaient avec rapidité dans le gréement. Sur la Marietta, quelques pirates s'occupaient de défendre leur propre bateau en étouffant les flammes avec de la toile mouillée, tandis que d'autres manipulaient les catapultes. Une pluie de rues de pierre s'abattit sur le Grincheux. Entre-temps, les grappins halaient l'infortuné navire toujours plus près de la Marietta, où un détachement d'abordage assoiffé de sang se massait près des lisses, impatient d'en découdre. Les combattants sur la Marietta étaient notablement plus nombreux que les membres d'équipage du Grincheux. À bord de la Vivacia, les hommes s'alignaient le long de la lisse, envieux de leurs camarades pirates qu'ils sifflaient et hélaient. Des archers grimpaient dans le gréement et une volée de flèches se mit à pleuvoir au hasard sur l'équipage et le pont du Grincheux. Si leur participation à la bataille était limitée, elle n'en était pas moins mortelle. Les combattants qui s'acharnaient à défendre le Grincheux devaient se rappeler qu'ils avaient un deuxième adversaire dans le dos. Ceux qui l'oubliaient étaient transpercés par des flèches sifflantes. Kenneth maintenait la Vivacia à l'écart de l'action, la proue pointée vers la bataille. Il se tenait sur le gaillard d'avant, les mains agrippées à la lisse. Il parlait à voix basse comme s'il lui donnait des instructions. Par intermittence, une bourrasque de vent apportait aux oreilles de Yémin ces marmonnements qui n'étaient destinés de toute évidence qu'à Vivacia.
Là, tu le vois. D'abord il enjambe Alice, puis le voilà sur le pont de l'ennemi, lui, là, avec le foulard rouge. C'est Sudge, un fameux gredin. Il faut toujours qu'il soit le premier. Derrière lui, c'est Rogue. Il idolâtre Sudge, ce qui lui vaudra peut-être d'être tué un jour.
La figure de proue acquiesçait de la tête et ne perdait pas une goutte de la scène. Dans son émoi, elle serrait les poings sur sa poitrine et entr'ouvrait les lèvres. Quand Yémin se tendit vers elle, il perçut son enthousiasme et son trouble. Les sentiments des matelots, mélange de convoitise, d'envie et d'exaltation, venaient battre contre elle comme une marée montante. Un fil d'émotion se détachait de l'ensemble. Kenneth avait l'orgueil de ses hommes. Comme une colonie de fourmis, les pirates, dans leur tenue bariolée, déferlèrent sur le pont du Grincheux et propagèrent le désordre. Le vent et la mer entre les deux navires étouffaient les malédictions et les hurlements. Si Vivacia se rendait compte que les flèches tirées depuis son gréement transperçaient de la chair humaine, elle n'en laissait rien voir. De loin, le massacre était un spectacle plein de mouvements et de couleurs, un drame fastueux et haletant. Un homme tomba du gréement du Grincheux. Il heurta un espar, s'empêtra brièvement dedans et s'écrasa sur le pont. Yémin grimaça au bruit du choc, mais Vivacia ne s'y la même pas. Son attention était fixée sur le gaillard d'avant où Avry se battait avec Sorcor. Le capitaine dardait sa lame fine et miroitante comme une aiguille d'argent sur le pirate plus massif. Sorcor para le coup avec sa dague dans la main gauche et riposta avec son épée dans la main droite. La mort dansait entre eux. Les yeux de Vivacia brillaient. Yémin coula vers Kenneth un long regard en biais. De là à cette distance, la vive nef pouvait assister au déroulement et au vacarme de la bataille, mais elle était protégée de l'horreur. Le sang n'éclaboussait pas ses ponts, et le vent emportait la fumée et les cris des mourants et des blessés. Comme une tache qui s'étend, les pirates se répandaient, lentement mais sûrement, sur le pont du vaisseau capturé. Vivacia voyait tout, mais elle en restait détachée. Kenneth cherchait-il à l'accoutumer petit à petit à la violence? Yémin s'éclaircit la gorge.
« Des hommes sont en train de mourir là-bas. Des vies s'achèvent dans la souffrance et dans la terreur. »
Vivacia lui lança un bref coup d'œil, puis revint au combat. Ce fut Kenneth qui répondit.
« Ils se sont attirés les ennuis, » fit-il remarquer. « Ils ont fait leur choix en sachant très bien qu'ils risquaient de mourir. Je ne parle pas seulement de mes braves qui se lancent de bon cœur dans la bataille. Ceux du Grincheux s'attendaient à être attaqués. Ils l'ont cherché. » Ils se sont vantés d'être prêts. N'oublie pas qu'ils étaient bien équipés de gilets de cuir, d'épées et d'arcs. Auraient-ils eu tout ça à bord s'ils ne s'étaient pas attendus au combat, s'ils ne se savaient pas dignes d'être provoqués?
Kenneth eut un rire de gorge.
« Non, » répondit-il lui-même. « Ce que tu vois là n'est pas un massacre. C'est l'affrontement de deux volontés. On pourrait même dire qu'il ne s'agit que de la manifestation physique de l'éternel conflit entre la vertu et l'iniquité. « Des hommes meurent !»
répéta Yémin avec obstination. Il voulait parler avec conviction, mais il constatait que ses certitudes fondaient devant les paroles persuasives du pirate.
« Il y a toujours des hommes qui meurent !» admit le pirate d'un ton égal. « Toi et moi qui sommes sur ce pont, nous sommes déjà en train de disparaître, de faner, éphémères comme des fleurs d'été. Vivacia nous survivra, Yémin. La mort n'est pas un mal. N'a-t-il pas fallu plusieurs morts pour qu'elle pût s'éveiller? Pensez-y de cette façon, Yémin. Est-ce de notre vie qu'elle est témoin, chaque jour qui passe, ou de notre mort? On peut dire l'un comme l'autre. Oui, il y a souffrance et violence. Elles font partie de la vie de tout être et ne sont pas mauvaises en soi. La violence d'une crue arrache un arbre à la berge, mais le limon qui fertilise la terre et l'eau qu'apporte la crue compense largement. Nous sommes les soldats du bien, madame et moi. Si nous devons éradiquer le mal, que ce soit rapidement, même si cela implique de la souffrance.
Sa voix était basse et profonde, tel un lointain coup de tonnerre et aussi émouvante. Quelque part dans cette logique harmonieusement liée, Yémin devinait des fils lâches. S'il était capable d'en découvrir ne serait-ce qu'un seul, il pourrait défaire tout le raisonnement. Il se retrancha derrière une phrase qu'il avait lue dans un livre. « Une des choses qui distingue le bien du mal, c'est que le bien peut souffrir l'existence du mal et cependant prévaloir. Le mal, en revanche, est finalement toujours vaincu par le bien. » Kenneth sourit avec bienveillance et secoua la tête. « Yémin, pense à ce que tu dis. N'est-il pas trouble, ce bien qui tolère le mal et lui permet de durer ? Ce bien-là qui craint pour ses aises et sa sécurité se dénature et tourne à la complaisance aveugle. Allons-nous fermer les yeux sur la détresse contenue dans les cales de ce navire en disant « Eh bien, nous sommes tous des hommes libres, nous n'y pouvons rien, ils n'ont qu'à s'occuper d'eux-mêmes ?» Ce n'est certainement pas ce qu'on t'apprenait au monastère. Ce n'est pas ce que je voulais dire, rétorqua Yémin indigné. Le bien souffre le mal comme une pierre souffre la pluie. Il ne le tolère pas assez. Je crois que c'est fini, interrompit calmement Kenneth. Des corps passaient par-dessus bord, sur le grincheux. Aucun serpent n'émergea pour les avaler. Rapide et propre, le bateau n'avait pas attiré de bêtes dans son sillage. Le pavillon du grincheux fut arraché et promptement remplacé par celui, rouge et noir, du corbeau. On ouvrit les écoutilles. Les esclaves commencèrent à sortir sur le pont. Kenneth jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Etta, fais amener la yole. Je veux aller inspecter notre prise, » dit-il, puis en se tournant vers Yémin. « Ça te tente de m'accompagner, petit ? Tu verras la gratitude de ceux que nous avons sauvés. Ce serait instructif pour toi, et ça modifierait peut-être tes opinions sur ce que nous faisons. » Yémin secoua lentement la tête. Kenneth éclata de rire, puis il déclara d'une voix changée. « Tu vas venir quand même, et leste s'entraîner. Je vais t'éduquer malgré toi. » Yémin soupçonnait que le vrai motif du pirate était de l'empêcher de parler en tête-à-tête avec Vivacia de ce dont il venait d'être témoin. Seul devait compter les paroles de Kenneth quand elle réfléchirait à la prise du grincheux. Yémin serra les dents, mais se tourna pour obéir au pirate. Il endurerait. Il fut stupéfié quand Kenneth lui passa un bras autour des épaules et s'appuya sur lui comme pour chercher un soutien. D'une voix affable, le capitaine lui dit « Apprends à perdre avec élégance, Yémin, car tu n'as pas vraiment perdu. Tu gagnes ce que j'ai à t'apprendre. » Et il ajouta avec un grand sourire « J'ai beaucoup à t'apprendre. » Plus tard, assis dans l'embarcation qui avançait vers le grincheux, Kenneth se pencha pour lui murmurer à l'oreille « Même la pierre finit par être usée par la pluie, mon garçon. Et il n'y a pas de honte pour la pierre. » Il lui tapota affectueusement l'épaule, puis se redressa sur le banc. Il rayonnait de satisfaction en levant les yeux vers sa prise, au-delà de l'eau scintillante. Des rafales de vent apportaient à Althea les sons lointains d'un pipeau, alors qu'elle traversait à pas rapide le bois derrière sa maison et dégringolait les falaises. Elle avait promis à Brachon et Ambre de les retrouver près du navire échoué vers midi. Ils devaient ensemble apprendre les nouvelles à la vive nef. L'estomac noué, elle se demandait quelle serait la réaction de Parangon. Les notes de pipeau qui lui parvenaient étaient plus expérimentales que vraiment mélodieuses. Un enfant qui jouait sur la plage, probablement. La gravité des sons aurait dû la préparer à ce spectacle. La figure de proue aveugle qui soufflait dans un chalumeau de berger démesuré. Absorbé en lui-même, Parangon était transfiguré, les rides du front lissées, les épaules décrispées. Il paraissait complètement différent du navire sinistre et ombrageux avec lequel elle s'était liée d'amitié il y avait si longtemps. Elle éprouva une pointe de jalousie à l'égard d'Ambre qui avait réussi à opérer en lui pareil changement. Le pipeau démesuré était manifestement de la main d'Ambre. Althea secoua la tête en prenant conscience soudain d'un de ses manques. Durant toutes les années où elle avait connu Parangon, elle n'avait jamais songé à lui offrir de cadeaux comme Ambre. La fabricante de perles lui avait apporté des jouets, des babioles, afin qu'il s'occupe les mains et l'esprit. Althea était son amie depuis longtemps, mais elle ne l'avait jamais considérée autrement que comme une vive nef déchue. Elle avait de l'affection pour lui et le voyait comme une personne, non comme une chose. Cependant, l'image qu'elle se faisait de lui n'avait jamais varié. C'était un navire qui avait trompé la confiance mise en lui, un vaisseau dangereux qui ne naviguerait plus jamais. Ambre avait révélé l'enfant en lui, un enfant joyeux, vif, quoique noué, et elle avait joué le jeu. Cela avait tout changé dans l'esprit de Parangon. Althea s'approcha, un peu hésitante. Le navire n'était pas conscient de sa présence et continuait à jouer. À l'origine, la figure de proue représentait un guerrier barbu aux traits taillés à la serpe. Et il y avait des années de cela, une hache ou hachette l'avait privé de ses yeux. Aujourd'hui, malgré la barbe hirsute et les boucles broussailleuses, les parties épargnées de son visage étaient étrangement enfantines. Elle était venue se joindre à Brachon et Ambre pour le convaincre de s'atteler de nouveau à la tâche où il avait échoué de manière spectaculaire. Elle venait lui enlever cette journée ensoleillée et l'être enfantin qui jouait du pipeau. Elle lui demanderait de faire ce qu'il redoutait le plus. Qu'allait-il ressentir? Pour la première fois depuis que Brachon avait exposé son plan, elle s'interrogea sur la manière dont Parangon en serait affecté. Puis, elle songea à Vivacia et endurcit son cœur. Il était une vive nef. Il avait été créé pour naviguer, et si elle pouvait le rendre à la mer, cela vaudrait bien plus que toutes les babioles d'Ambre. Elle se refusa à imaginer ce qu'il adviendrait de tous s'il échouait à nouveau. Elle sentit une odeur de feu. Maintenant que le temps s'était réchauffé avec la venue de l'été, Ambre cuisinait la plupart du temps sur la plage. À l'intérieur du Parangon, elle avait apporté des changements graduels, certains approuvés par Althea et d'autres qui l'avaient horrifiée. La chambre du capitaine luisait de tous ses bois cirés et huilés. Les cuivres avaient été fourbis, les placards abîmés et les charnières avaient été réparés avec amour. La cabine fleurait l'huile de lin, la térébenthine et la cire d'abeille. Le soir, quand Ambre allumait une lanterne, ce n'était que miel et or. Mais autrement consternante était la trappe qu'elle avait percée dans le plancher pour descendre à la cale. Brachon et Althea avaient été tous deux outrés en la découvrant. Elle avait cherché à leur expliquer qu'elle avait voulu ménager un accès plus direct aux cales où étaient entreposées ses provisions, mais ni l'un ni l'autre n'avait accepté son explication. Nulle part, sur aucun navire, il n'existait de trappe dans la chambre du capitaine. Même bien verrouillée et dissimulée sous un beau tapis, elle scandalisait Althea. Ambre avait restauré d'autres parties du navire. Le fourneau de la coquerie avait été nettoyé et astiqué. Bien qu'elle préparât la cuisine à l'extérieur, elle gardait là ses casseroles et ses provisions. Comment s'arrangerait-elle de l'inclinaison du pont? Cela restait une énigme pour Althea. Elle se contentait de dire que ses réparations avaient apparemment fait du bien à Parangon, et c'était pour cela qu'elle avait travaillé. Elle avait balayé le sable, gratté la mousse et les algues qui s'étaient incrustées sur le navire, elle avait fait brûler partout des herbes aromatiques contre l'humidité et les insectes. Les portes, hublots et panneaux de cale étaient assujettis. Elle avait effectué tout ce travail avant qu'on eût discuté du renflouage du Parangon. Althea méditait quelques instants là-dessus, puis écarta ses soupçons. « Parangon !» cria-t-elle. Il cessa de jouer et sourit à belles dents dans sa direction.
« Althea, tu es venue me voir !»«
Oui, Brachon et Ambre sont là. »«
Et où veux-tu qu'ils soient ?»
demanda-t-il tout joyeux.
« Ils sont à l'intérieur. » Brachon voulait voir le couplage de mon gouvernail, je ne sais pas pourquoi. Ambre est avec lui. Ils seront là dans un instant.
Ton pipeau est ravissant. Il est nouveau?
Pas tout à fait, confia-t-il d'un air penaud. Je l'ai depuis un ou deux jours, mais
Je n'arrive pas encore à en jouer. Ambre dit que cela ne fait rien si je ne suis pas une mélodie. Du moment que le son me plaît, c'est ma musique. Mais je veux arriver à jouer un air.
Je crois qu'elle a raison. Ça viendra en son temps quand tu te seras exercé.
Les mouettes se mirent à tournoyer au-dessus de la tête d'Althéa en poussant des cris. À l'autre bout de la plage, deux femmes se dirigeaient vers le navire. Un homme corpulent les suivait à grand-peine. Il venait trop tôt. Elles n'avaient même pas eu le temps d'aborder le sujet avec Parangon et il n'allait pas tarder à découvrir que tout avait été décidé sans lui. Il fallait qu'elle fasse venir Brashen et Ambre avant que les autres n'arrivent.
« Qu'est-ce qui a dérangé les mouettes ?»
demanda Parangon.
« Des promeneurs sur la plage. J'aimerais prendre une tasse de tisane. Cela t'ennuie si je monte pour emprunter à Ambre sa bouilloire ?»«
Vas-y, je suis sûr que cela ne la dérangera pas. Bienvenue à bord !»
Il porta de nouveau le pipeau à ses lèvres et elle eut l'impression de le trahir. D'ici peu, sa vie serait complètement transformée. Elle grimpa à l'échelle de corde qui était la plus récente contribution de Brashen à l'amélioration du domicile d'Ambre et se dirigea sur le pont en pente vers l'écoutille d'arrière. Elle allait descendre quand elle entendit leur voix.
« Il me paraît en bon état, »
disait Brashen.
« Mais c'est difficile à évaluer tant que le gouvernail est enfoncé dans le sable. Quand le navire sera libéré, il faudra vérifier. De toute façon, un peu de graisse ne lui fera pas de mal. On pourrait y mettre Cliff. »
Malgré son inquiétude, Althéa ne put s'empêcher de sourire. À en croire Brashen, le petit esclave était un sacré empoisonnement. Pourtant, il paraissait déjà s'être glissé dans le rôle du mousse. Brashen lui attribuait toutes les corvées simples dont personne n'avait le temps de se charger. Le gamin avait dit vrai quand il avait assuré qu'il savait y faire sur un pont. Il semblait tout à fait à l'aise à bord du navire abandonné. Apparemment, si Parangon l'avait rapidement accepté, en revanche, Cliff avait du mal à s'habituer à la figure de proue animée. Il n'osait pas encore s'adresser directement à Parangon.
« Une bénédiction, » conclut Althéa, si l'on songeait aux secrets qu'on avait cachés au navire durant cette dernière semaine.
Davad Restart n'avait pas été facile à convaincre. Devant Ronica, il avait commencé par nier être au courant des affaires concernant Parangon. Mais celle-ci s'était montrée inflexible. Il connaissait les propositions et contre-propositions de rachat du navire. Lui seul pouvait négocier ce contrat délicat. Quand il avait fini par admettre qu'il était informé des tractations, Althéa avait quitté la pièce écœurée. C'était un marchand, élevé dans les mêmes traditions qu'elle. Comment avait-il pu même songer à agir ainsi envers une vive nef? Comment avait-il pu s'abaisser à faire miroiter de l'argent aux yeux des Luchans pour qu'ils consentent à cette iniquité? Son acte était perfide, cruel et injuste. Par goût du lucre, pour accroître son influence sur les nouveaux marchands, il avait trahi son peuple. Sous le dégoût, la blessure était cuisante. Davad Restart, qui lui apportait des bonbons et la prenait sur son dos quand elle était petite. Davad, qui l'avait vu grandir, qui lui avait fait porter des fleurs le jour de son 16e anniversaire. Davad, le traître.
Sa mère et sa sœur s'étaient chargées de ce qu'elles considéraient aujourd'hui comme une sorte de chantage.
Althéa s'était vue incapable d'y tenir la moindre part. Elle évitait le marchand, car elle craignait de se montrer impolie et pourtant elle n'osait l'offenser. Elle se laissa tomber de l'échelle et on entendit le martèlement de ses bottes sur le pont.
« Les autres arrivent. Mère est au bout de la plage. Malheureusement, Restart a décidé de suivre le mouvement. J'espère qu'il aura le bon goût de ne pas ouvrir la bouche, mais j'en doute. Vous avez déjà parlé à Parangon ?»
Elle posa les yeux sur Ambre. C'était plus facile. Il n'y avait pas d'hostilité entre Brashen et elle, mais un certain malaise.
« Pas encore, » répondit Ambre, accablée. « Je voulais que tu sois présente. Je n'attendais pas les autres si tôt. »
« Ils sont en avance. On pourrait envoyer Cliff pour leur demander d'attendre qu'on leur fasse signe. »
Ambre réfléchit un instant.
« Non. Je crois que le plus tôt sera le mieux. Il va t'empêter, faire la tête, j'en ai peur, mais il se peut que dans son fort intérieur, il soit content,
dit-elle, puis elle ajouta avec un petit soupir,
allons-y.
Althea suivit Ambre qui grimpa à l'échelle avec Brashen sur leurs talons. Sur la plage, ils trouvèrent Cliff, assis sur un rocher en face de Parangon. Le gamin, tout rouge, cherchait à reprendre haleine. Parangon soufflait dans son pipeau en faisant des bruits sonores comme des paix, et ils étaient tous les deux morts de rire. La figure de proue leva sa main libre pour étouffer ses gloussements, mais le garçon riait à gorge déployée. Althea s'arrêta et contempla la scène. Derrière elle, Brashen se joignit à leur hilarité. Le parangon tourna vers eux ses yeux aveugles et leur adressa un sourire épanoui.
« Alors, vous voilà !»«
Oui, nous voilà !»
acquiesça Ambre.
« Tous les trois !»
Elle s'approcha de la figure de proue, puis tendit sa main gantée pour lui effleurer l'avant-bras.
« Parangon, nous sommes là parce que nous voudrions te parler de quelque chose de très important. »
Le rire s'effaça et fit place au désarroi.
« Quelque chose de mauvais ?»«
Non, de bon !» dit Ambre pour l'apaiser. « Du moins, c'est ce que nous croyons. »
Elle regarda les autres, puis jeta un coup d'œil vers la plage. Althea suivit son regard. Ronica et Amis Lutchance n'allaient pas tarder.
« Nous avons une occasion de faire quelque chose de bien avec ton aide. Sans toi, on ne peut rien. »«
Je ne suis pas un enfant, » dit-il. « Parle franchement. »
Son appréhension augmentait.
« Ensemble ?» « Comment ça ? Faire quelque chose de bien ?»
Émue, Ambre se frotta le visage. Elle regarda de nouveau Brashen et Althea, puis se concentra sur le navire.
« Je sais que tu n'es pas un enfant. Je ne m'y prends pas très bien parce que j'ai tellement peur que tu ne veuilles pas te joindre à nous. Voilà, Parangon. Tu connais la vive nef des Vestrites, Vivacia. Elle a été capturée par les pirates. Tu es au courant. Tu nous as entendu en parler, nous demander ce que nous pouvions faire. Eh bien, Althea veut aller à sa rescousse. Brashen et moi, on veut l'accompagner,
fit-elle en reprenant haleine.
Nous voudrions que ce soit toi qui nous emmène là-bas. Qu'en penses-tu?
Les pirates,
dit-il suffoqué, en se grattant la barbe de sa main libre.
« Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je vous aime bien tous les trois. J'aime bien être avec vous. Aucun navire ne devrait être laissé aux mains des pirates. Ce sont des gens terribles. »
Althea se remit à respirer. Tout allait bien se passer.
« Les Lutchans ont dit qu'ils m'emmèneraient là-bas. »
Brashen tout sauta nerveusement. Ambre jeta un coup d'œil alentour, les encourageant à parler à leur tour, mais ni l'un ni l'autre ne fit mine de prendre la parole.
« Les Lutchans vont permettre que nous, nous t'emmenions là-bas. »«
Mais qui ? Tu ne veux pas dire qu'il n'y aura pas un membre de ma famille à bord ?»
demanda-t-il incrédule.
« Aucune vive nef ne navigue sans un membre de sa famille !»
Brashen s'éclaircit la gorge.
« Je serai là, Parangon. Depuis le temps que nous nous connaissons, nous sommes presque parents. Je ne te suffirai pas ?»«
Non, non, Brashen !»
dit Parangon qui haussa le ton effrayé.
« Je t'aime bien, vraiment, mais tu n'es pas un Lutchans, moi si. Tu es mon ami, mais pas un parent. Je ne peux pas naviguer sans un parent à bord !»
Il secoua la tête exagérément.
« Ils ne le permettront pas. Ce serait comme s'ils m'abandonnaient pour toujours. Ça signifierait que je ne vaux plus rien. »
Il serra son pipeau dans ses mains qui persistaient à trembler.
« Non !»
Ronica et Amis Lutchance s'étaient arrêtés. Amis considérait le parangon. Elle croisa les bras sur sa poitrine et pinça les lèvres. Althea lut sur son visage à la fois le reniement et le rejet. Heureusement que Parangon était aveugle. Davad soufflait en s'efforçant de réduire la distance et de les rattraper.
« Parangon, » dit calmement Althea, « je t'en prie, écoute-moi. Voilà des années qu'un Lutchance n'a pas mis les pieds sur ton pont. Sans nous, tu aurais été seul. Pourtant, tu as survécu. Je crois que tu es différent des autres Vivnef. Je crois que tu as une personnalité à toi, distincte de ta famille. Je crois que tu as appris à être indépendant. »
« Si j'ai survécu, c'est uniquement parce que je ne peux pas mourir !»
rugit-il soudain. Il brandit le pipeau comme s'il voulait le lancer sur eux. Puis, avec un sang-froid affecté, il déposa le précieux instrument derrière lui sur le gaillard d'avant. En respirant fort par le nez, il se tourna vers elle.
« Je vis dans la douleur, Althea. Je vis au bord de la folie. » Tu crois que je ne le sais pas? J'ai appris. Qu'est-ce que j'ai appris? Rien. Seulement que je dois continuer. Alors je continue. Un vide insatiable me dévore de l'intérieur. Il me ronge jour après jour, me consume seconde après seconde, et ainsi progressivement je diminue, mais je n'arrive pas à fermer les yeux pour de bon.
Il se mit soudain à rire comme un démon.
« Tu dis que j'ai une personnalité distincte de ma famille. Oh oui, oui, c'est vrai. Une personnalité avec des dents et des serres, si remplie de douleur et de fureur que je lacérerais le monde si je pouvais faire que tout s'arrête. »
Il avait enflé la voix jusqu'au rugissement. Il écarta brusquement les bras, rejeta la tête en arrière et poussa un cri aigu, inhumain, d'une insoutenable tristesse. Althea se plaqua les mains sur les oreilles. Du coin de l'œil, elle vit Amys Lutchance faire demi-tour et s'enfuir en courant. Ronica s'élança à sa suite, la rattrapa et la saisit par le bras. Elle la fit pivoter. Althea devina qu'elle la sermonnait. Davad, qui les avait rejointes, exprimait sa désapprobation et s'épongeait le front avec un mouchoir de soie. Althea comprit ce qu'il s'était passé. Amys Lutchance avait changé d'avis. Althea avait perdu sa seule chance de sauver Vivacia. Ce qui n'aurait pas été aussi consternant si Parangon avait été gagnant dans l'histoire, mais elle ne croyait pas non plus à cette éventualité. Les Lutchance ne vendraient pas Parangon, mais ils ne navigueraient plus avec lui. Il resterait là sur la grève de Terrilville à vieillir, à s'enfoncer davantage dans la folie. N'en serait-il pas de même pour elle? Ambre se tenait dangereusement près de Parangon, une main posée sur sa coque. Elle lui parlait doucement. Il ne faisait pas attention à elle. Il avait enfoui sa tête dans ses mains et pleurait à gros sanglots qui lui secouaient les épaules comme un enfant au cœur brisé. Cliff s'était approché et le fixait, les yeux écarquillés, en se mordant la lèvre inférieure et en serrant les poings.
« Parangon !»
s'écria Amys Lutchance. Il découvrit brusquement son visage couturé et tourna la tête aveuglément.
« Qui est-ce »
demanda-t-il éperdu. Il se frotta les joues comme pour essuyer les larmes de ses yeux inexistants. Il était à l'évidence bouleversé qu'un tiers inconnu ait été témoin de son chagrin.
« C'est Amys Lutchance !»
répondit-elle sur la défensive. Ses cheveux grisonnants s'étaient échappés de son bonnet et son châle claquait au vent. Elle attendit sa réaction sans mot dire. Parangon parut frappé de stupeur. Il ouvrit et referma la bouche à deux reprises avant de trouver ses mots.
« Pourquoi es-tu venu ici ? »
dit-il d'une voix étrangement circonspecte qui n'avait plus rien d'enfantin. Il irradiait la souffrance. Il inspira péniblement en se forçant au calme.
« Pourquoi, après tout ce temps, es-tu venu me parler ? »
Elle parut plus secouée que s'il avait crié.
« Ils te l'ont dit, non ? »
bafouilla-t-elle avec maladresse.
« Dis quoi ?
fit-il impitoyable. Elle se redressa.
« Je t'ai vendu. Tu ne peux pas me vendre. Je fais partie de ta famille. Tu pourrais vendre ta fille, ton fils. »
Amice Lutchance secoua la tête.
« Non, »
murmura-t-elle.
« Non, je ne pourrais pas,
parce que je les aime et qu'ils m'aiment. » Elle leva les yeux vers le navire défiguré.
« Ce qui n'est pas vrai pour toi, »
poursuivit-elle d'une voix soudain suraiguë.
« D'aussi loin que je me souviens, tu es le fléau de ma famille. Je n'étais même pas né quand tu as navigué pour la dernière fois, mais j'ai grandi dans la souffrance et le chagrin de ma grand-mère et de ma mère. Tu avais disparu, et les hommes de notre famille avec toi, et ils ne sont jamais revenus. Pourquoi ? De quoi voulais-tu nous punir ? D'être ta famille ? Ça aurait été suffisamment dur si tu n'étais pas revenu. Mais au moins, nous n'aurions eu aucune certitude. Nous aurions cru que vous aviez tout sombré, ou bien qu'il se trouvait quelque part vivant, mais dans l'impossibilité de rentrer. Mais il a fallu que tu reviennes pour nous prouver que tu avais tué une fois de plus. Une fois de plus, tu avais massacré les hommes de la famille qui t'avait créé, et seules les femmes sont restées à les pleurer. Tu es là depuis 30 ans, un reproche permanent, un symbole de notre honte et de notre culpabilité. Tous les navires qui entrent au port et en sortent te voient là. Personne à Terrilville qui n'ait sa petite idée sur les raisons de ton échec. La plupart en rejettent la faute sur nous. On nous a taxés d'avidité, d'imprudence, d'égoïsme et de cruauté. Certains disent que nous avons bien mérité ce qui nous est arrivé. Tant que tu seras là, nous ne pourrons jamais oublier ni nous pardonner. Il serait bien préférable que tu disparaisses. Ils sont disposés à te prendre, et nous, sommes plus que disposés à nous débarrasser de toi.
Elle les noyait sous ce déluge de paroles venimeuses. La peine qu'Althea ressentait pour Parangon la laissa sans voix. Amice Lutchance était hors d'elle, les yeux lui sortaient de la tête. Peut-être, après tout, Parangon était-il fait de la même essence que les Lutchances.
« Avant toi, notre famille était puissante. Tu devais être notre gloire, le parangon de nos succès. » Au lieu de quoi, tu nous as ruinés, tu ne nous as apporté que malheur et désespoir. Eh bien, tu ne vas pas le nier au moins. Parle, ô merveilleux navire. Après tout ce temps, dis-moi pourquoi. Pourquoi t'es-tu retourné contre eux? Pourquoi as-tu tué nos rêves, nos espoirs, nos hommes?
Elle s'arrêta enfin, pantelante d'émotion. À côté d'elle, Ronica paraissait écœurée. Mais c'était l'expression de Davad Restart qui était la plus saisissante. Il avait l'air troublé et pourtant une sorte d'honnêteté brillait dans ses yeux.
« Le fleuve du désert des pluies, » dit-il à mi-voix.
« Il n'est jamais rien sorti de bon du désert des pluies. Une magie empoisonnée, une maladie insidieuse, c'est tout ce qui est jamais... »«
Ça suffit !»
siffla Ambre.
« Taisez-vous et allez-vous-en. Allez-vous-en tout de suite. Il sait. Voilà. Voilà. Prenez. C'est à vous. Tout est à vous. Tout ce que j'ai en échange de lui. Comme je l'ai promis. »
Elle détacha de son cou une clé qui pendait à un cordon de cuir et la jeta aux pieds de Davad. La clé atterrit sur un galet avec un tintement sonore. Il se baissa avec effort pour la ramasser. Althea reconnut la grosse clé de la boutique de la rue du désert des pluies. Il l'empocha. Amice Lutchance restait là, les yeux levés vers le navire. Quelques larmes avaient coulé sur ses joues flétries, mais elle ne pleurait plus. Elle regardait simplement Parangon, bouche close. Au-dessus d'elle, la figure de proue avait croisé les bras sur sa poitrine, relevé la tête, De ses yeux aveugles, elle contemplait la mer. Les muscles de sa mâchoire étaient crispés, les lèvres serrées. Elle avait l'immobilité d'une statue de bois ordinaire. Davad tira Amice Lutchance par le bras.
« Venez, Amice, je vous ramène chez vous, puis j'irai prendre possession de la boutique pour vous. Je crois que vous avez obtenu le meilleur profit possible d'une mauvaise affaire, comme nous tous. Au revoir, Onika, Althea. N'oubliez pas, ce n'est pas moi qui ai engagé la transaction. »
« Nous n'oublierons pas, » dit Althea d'une voix neutre. Elle ne les regarda pas s'en aller. Elle leva les yeux vers le navire silencieux et immobile. Elle était tenaillée par un sentiment de culpabilité. Pourquoi avait-elle cru qu'Amice Lutchance pourrait persuader Parangon de partir de bon cœur? La rancune des Lutchance était légendaire à Terrilville. Pourquoi avait-elle cru que cette femme n'en voudrait plus à son navire abandonné? Brusquement, tout cela lui parut insensé. Mettre à la voile sur un navire fou dans le vague espoir d'aller récupérer sa vive nef, autant aller décrocher la lune. Qui d'autre pourrait croire au succès de pareille entreprise?
« Parangon ?»
dit Ambre à mi-voix.
« Parangon, elle est partie maintenant. Ça va aller, tu vas voir, tout est pour le mieux. » « Désormais, tu seras avec des gens qui t'aiment. Tu vas reprendre la mer, retrouver ton élément, et quand tu rentreras à Terrilville, tu seras un héros. Tout le monde reconnaîtra ta valeur alors, même les Lutchance. Parangon ?»
Cliff se faufila derrière Brashen jusqu'au navire et posa timidement la main sur le bordage. Il leva les yeux vers la figure de proue immobile au-dessus de lui.
« Des fois, dit-il avec sérieux. Faut être sa propre famille, quand t'es le seul qui reste d'elle. »
Parangon ne répondit pas. Le Grincheux était une capture de choix. On hissa jusqu'au pont un kénite débordant d'une rare euphorie. Etal y attendait pour lui rendre sa béquille. Il goûtait doublement le sel de cette victoire. Non seulement c'était sa première grosse prise depuis sa guérison, mais Yémin en avait été témoin. Il pouvait presque sentir l'émerveillement du gamin sur ses talons. « Allons, laissons-le béer devant ce petit vaisseau bien astiqué et prendre la vraie mesure du capitaine Kenneth. » Yémin le tenait-il pour un coquin de cul-de-jatte tout juste bon à crocher des transports d'esclaves puants? Qu'il regarde un peu autour de lui et qu'il reconnaisse Kenneth pour l'un des meilleurs flibustiers qui ait jamais navigué dans la passe intérieure. Il manifesta sa satisfaction en se montrant magnanime pour l'équipage en général et pour Sorcor en particulier. Quand le pandar aux mains rouges se précipita pour lui faire son rapport, Kenneth lui asséna une vigoureuse claque sur l'épaule et le gratifia d'un « Bravo ! Voilà ce que j'appelle de la piraterie ! Des otages ?» Sorcor sourit de toutes ses dents, transporté d'aise devant un tel compliment.
« Seulement des officiers, capitaine. C'est comme vous aviez dit. Les autres étaient autant combattants que marins. Pas un qui ait voulu baisser les armes et se rendre. Je leur ai donné une seconde chance, vrai. Rendez-vous, que je leur ai dit. On vous laissera partager avec nous. Mais ils n'ont pas voulu. Dommage, sacré nom. Il y en avait qui savaient se battre à bord. » Mais les seuls qui restent, c'est ceux qui sont venus avec moi,
conclut Sorcor en souriant de sa plaisanterie.
Les officiers, Sorcor,
sont en bas. Le second a écopé de quelques pains sur la tête avant de descendre, mais il va s'en relever. Il y a du fameux joli butin aussi. Les esclaves ont rien. Il y en a qui sont un peu secoués par le changement, mais ils s'en remettront.
Des pertes ?
Demanda Kenneth qui clopinait vivement. Le sourire de Sorcor s'évanouit.
Plus lourde qu'on s'y attendait, capitaine. C'était des durs, ceux-là, et ils sont tombés les armes à la main. On a perdu Falaise, Marne et Bog. Yar n'a plus qu'un œil. Quelques autres ont des petits bobos. Opalin a la figure ouverte jusqu'aux dents. Il est fou de douleur. « Je l'ai déjà renvoyé sur la Marietta. Il hurlait comme un putois.
Opalin. Après un instant de réflexion, Kenneth ordonna. Envoie-le sur la vivacia. Yéma le soignera comme il pourra tout à l'heure. Il a le don pour ça, le petit gars. Je remarque que tu ne parles pas de toi, Sorcor.
Le grand pirate sourit et eut un geste de dérision en montrant sa manche gauche ensanglantée.
Deux épées contre une, et il a quand même trouvé le moyen de me toucher. J'ai honte de moi.
Malgré tout, il faudra s'en occuper aussi. Où est Eta? Eta, occupe-toi du bras de Sorcor. Va, tu es une bonne fille. Yéma, tu viens avec moi. Allons jeter un coup d'œil à ce que nous avons récolté aujourd'hui.
Ce fut plus qu'un coup d'œil. À dessein, Kenneth emmena le garçon dans toutes les cales. Il lui montra les tapisseries, les tapis roulés et enveloppés de toile pour le voyage. Il lui montra les caisses de café et de thé, les épaisses tresses d'herbe à rêve enroulées dans des pots d'argile, les bobines de fil d'or et de pourpre. Tout cela, expliqua Kenneth, était le produit de l'esclavage. C'était bien joli, mais acheté au prix du sang. Yéma trouvait-il juste qu'on laisse des gens comme Avri et ses commanditaires profiter de leurs biens mal acquis?
Tant que l'esclavage rapportera, on fera le trafic. L'appât du gain, c'est ce qui a amené ton père à entrer dans le jeu. Et ce qui a causé sa perte. J'ai bien l'intention de faire en sorte que ce soit la perte de tous ceux qui trafiquent la chair humaine.
Yéma hocha lentement la tête. Kenneth doutait que le garçon soit parfaitement convaincu de la sincérité de son capitaine. Qu'importait? Tant qu'il pourrait justifier ses actes de piraterie et son combat, le petit serait obligé d'être d'accord avec lui. Il serait ainsi plus facile d'influencer la vive nef. Kenneth passa un bras autour des épaules de Yéma et proposa
« Retournons sur la vivacia. Je voulais que tu vois tout cela et que tu comprennes en écoutant toi-même Sorcor que nous avons offert une chance à ces malheureux. Qu'aurions-nous pu faire de plus, hein ?»
C'était la conclusion parfaite. Il aurait dû se douter que c'était trop beau pour durer. Alors qu'ils sortaient sur le pont, trois femmes esclaves se précipitèrent vers Kenneth. Avant qu'elles aient pu arriver jusqu'à lui, Eta s'interposa, la main sur la garde de son poignard. Elles se regroupèrent en tremblant sous son regard.
« On a un petit souci, » dit Eta. « Ces trois-là refusent qu'on les libère. Elles veulent qu'on réclame une rançon pour elles, comme pour le capitaine et le second. »«
Et pourquoi ça ?»
s'enquit Kenneth d'un ton froid mais poli. Il leur jeta un coup d'œil. Elles étaient jolies, jeunes, le teint lisse. Leur tatouage était discret, pâle, à peine visible à la lumière du soleil.
« Ces sottes pensent qu'il vaut mieux pour elles continuer à être esclaves plutôt que de se refaire une vie à partage. C'est qu'elles sont habituées à être les petites chéries d'hommes riches. »
« Je suis poète, pas putain !»
protesta une femme furieuse.
« Le capitaine Avri m'a acheté à Jamelia tout exprès pour Sepp Cordor. C'est un riche noble bien connu pour être un bon maître. Si je vais chez lui, il subviendra à mes besoins et me laissera poursuivre mon art. Si je vais avec vous, qui sait ce que je devrais faire pour gagner ma vie? Même si je continue à composer, de quoi sera fait mon public dans ce minable trou perdu, sinon de voleurs et de coupe-jarrets?
Peut-être que tu préférais chanter pour les serpents ?»
lâcha Eta d'un ton suave. Elle dégaina son poignard et de la pointe elle effleura le ventre de la femme au-dessus du nombril. La poétesse ne broncha pas mais secoua la tête et scruta Kenneth.
« Et vous deux? Vous êtes aussi poète ?»
demanda-t-il avec nonchalance. Elles nièrent d'un signe de tête.
« Je suis Tisserande !»
répondit l'une d'une voix rauque.
« Et moi, je suis masseuse qualifiée et simple guérisseuse, »
dit l'autre quand Kenneth fixa les yeux sur elle.
« Et, laissez-moi deviner, vous êtes toutes les trois pour le sieur Sepp, l'homme très riche aux 100 serviteurs. »
Son ton jovial alluma une étincelle complice dans les yeux d'Eta. Elle appuya avec désinvolture sur sa lame pour forcer la première esclave à s'aligner sur les deux autres qui acquiescèrent d'un hochement de tête.
« Là, tu vois !»
Kenneth se détourna en les congédiant d'un geste de la main.
« Voilà les effets de l'esclavage, Yéma. Un riche achète leur talent pour sa propre gloire, il les achète avec de l'argent. Et elles ne savent même pas qu'elles sont des putains. Pas une qui ait la fierté de dire son propre nom. Elles font déjà partie de leur maître.
« Qu'est-ce que j'en fais ?»
demanda Etta alors qu'il s'éloignait en boitant.
« Elle souhaite être esclave, » fit-il avec un petit soupir. « Mêlée avec les autres à échanger contre rançon. Sepp Cordor les a achetées une fois. Il se peut qu'il les rachète une deuxième. »
Puis, subitement inspiré,
« Si quelqu'un paie leur rançon, on distribuera l'argent à ceux qui ont choisi la liberté. Ça les aidera à bien commencer. »
Etta hocha la tête consternée avant d'emmener le petit troupeau de femmes confié à ses soins. Kenneth se tourna vers Yéma.
« Tu vois, je ne force pas les gens à penser comme moi. Je ne te force pas, pas plus que Vivacia. Tu commences déjà à t'apercevoir que je ne suis pas le méchant pirate que tu imaginais. »
Alors qu'il se dirigeait sans se presser vers le siège de corde qui devait redescendre Kenneth à la yole, celui-ci interrogea Yéma.
« T'es-tu jamais demandé l'effet que ça te ferait d'être le capitaine de ton navire ? Un joli petit vaisseau comme celui-là, par exemple ?»
Le garçon regarda autour de lui avant de répondre.
« C'est un fin bateau. Mais non, mon cœur n'est pas attiré dans cette voie. Si j'étais libre, je retournerais à mon monastère. »«
Libre, Yémin ? Ton tatouage n'a aucune importance à mes yeux. Tu te considères toujours comme un esclave ?»
dit Kenneth en feignant l'étonnement.
« Non, ce n'est pas le tatouage qui fait de moi un esclave, » convint-il.
Et il serra les paupières quelques secondes.
C'est le sang qui me lie à Vivacia aussi étroitement que des chaînes. Le lien entre nous est plus fort de jour en jour. Peut-être pourrais-je encore la quitter et m'accomplir dans une vie consacrée à ça. Mais ce serait un acte égoïste. Mon absence creuserait en elle un vide permanent. Je ne crois pas que je pourrais trouver la sérénité en sachant que je l'ai abandonnée.
Et... tu ne crois pas qu'elle accepterait que je t'en remplace ?
Demanda Kenneth en penchant la tête.
« Car je ne désire qu'une chose, votre bonheur à tous les deux. Le monastère pour toi, si cela peut s'arranger sans qu'elle en soit détruite. »
Yéma secoua lentement la tête.
« Il faudrait que ce soit quelqu'un de mon sang, quelqu'un qui ait un lien de parenté avec elle. » Cela seul pourrait lui éviter la folie si elle est abandonnée.
« Je vois, » dit Kenneth pensivement. « Eh bien, nous voilà dans de beaux draps, pas vrai ?» Il tapota l'épaule du gamin d'un geste réconfortant. « Peut-être vais-je arriver à trouver une idée qui nous rendra tous heureux. »
Il était bon d'entendre l'eau jouer contre la coque. Une nouvelle fois, Vivacia faisait route, flanquant le Grincheux et la Marietta. Kenneth voulait que les trois navires s'éloignent suffisamment du lieu de l'embuscade. Il avait expliqué à Etta qu'on payait la rançon plus rapidement après une période d'incertitude. Le Grincheux allait simplement disparaître pour un temps. Kenneth l'emmènerait d'abord à Partage pour exhiber son trophée et ses prisonniers. Dans un mois ou deux, il s'arrangerait pour faire savoir en Calcède que le navire et les survivants pouvaient être rendus moyennant rançon. Il écoulerait lui-même la cargaison. Etta s'était déjà servie. Elle lissait l'étoffe étalée sur ses genoux, s'émerveillant de la finesse de son grain avant de tirer une aiguillée de fil. La nuit enveloppait les navires. Kenneth était à la barre. Etta se défendait d'en être contrarié. Après tout le temps qu'il avait passé à s'entretenir avec la vive nef aujourd'hui, il aurait pu se reposer. La journée avait été longue pour eux tous. Elle avait recousu le bras de Sorcor. Le grand costaud n'avait pas bougé, dents serrées dans un rictus de souffrance pendant qu'elle refermait la longue estafilade. Elle n'appréciait guère ce genre de travail, mais lui au moins n'avait pas hurlé comme le pauvre Opalin. On l'avait transporté sur la Vivacia pour le soigner. Il s'était débattu quand on l'avait plaqué sur les planches du gaillard d'avant comme pour le fouetter. Un coup d'épée lui avait fendu la joue et le nez jusqu'à l'os. L'entaille devait être suturée solidement s'il voulait pouvoir manger un jour normalement. Le soir tombait. On avait accroché une lanterne qui l'éclairait d'un rond de lumière. Sur le grincheux, il se trouvait un chirurgien parmi les esclaves. À l'ardente requête de Yémin, Kenith l'avait envoyé chercher. Opalin refusait qu'on touche à sa blessure. Quand Yémin avait voulu rapprocher les lèvres de la plaie pour permettre au chirurgien de suturer, le garçon avait poussé des cris aigus, avait agité la tête dans tous les sens, et ils avaient dû renoncer. Le chirurgien était d'avis qu'il fallait le saigner pour atténuer la douleur, ce qu'il avait fait jusqu'à ce que Opalin finisse par se taire. Eta avait observé la scène un moment tandis que Kenith expliquait l'opération à la vive nef. La souffrance que subissait le garçon était nécessaire. On ne pouvait pas le soigner autrement. Kenith la compara aux tueries qu'il était obligé de perpétrer pour débarrasser la région des transports d'esclaves. Yémin s'était renfrogné en l'entendant, mais il était trop occupé à recueillir le sang d'Opalin. Il s'était montré très scrupuleux dans le déroulement de l'opération et avait insisté pour qu'on étale une bonne épaisseur de toile afin d'éviter qu'une seule goutte ne vienne souiller le pont de la vive nef. Enfin, les cris rauques d'Opalin firent place à de petits soupirs étouffés et ils prirent leurs aiguilles pour lui reconstituer le visage. Il n'aurait plus son joli minois, mais il arriverait à manger. C'était la première fois qu'il faisait partie d'un détachement d'abordage. Il n'avait pas eu de chance, voilà tout. Eta acheva les derniers points de l'ourlet. Elle cassa le fil d'un coup de dent, se leva et détacha sa jupe qui tomba à ses pieds en une flaque écarlate. Elle passa sa nouvelle création, l'ajusta à sa taille. Elle ne connaissait pas le nom de ce tissu. La matière craquante bruissait et se froissait délicieusement sous ses doigts. Sous la lampe, l'étoffe d'un vert cèdre chatoyait et ondulait au moindre mouvement. Le contact surtout enchantait Eta. Elle passa les mains le long du tissu, le lustra sur ses hanches, le fit crisser. Cela plairait à Kenith. Il était sensuel quand il voulait bien être attentif à son corps. Non que les occasions aient été aussi fréquentes qu'elle l'aurait souhaité. Elle se regarda dans le miroir de la cabine et secoua la tête. Quelle ingrate! Il n'y a pas si longtemps, il était couché, brûlant de fièvre. C'était déjà heureux qu'il ait retrouvé ses appétits mâles. Elle avait entendu dire que certains hommes restaient impuissants après avoir été mutilés. Elle prit une brosse et la passa dans ses cheveux épais, qu'elle laissait pousser et qui atteindrait bientôt les épaules. Elle songea aux mains de Kenith dans sa chevelure, à son poids sur elle, et sentit s'éveiller le désir. Quand elle était putain, elle n'aurait jamais imaginé en arriver là. Désirer le contact d'un homme au lieu de souhaiter qu'il en finisse au plus vite. Du reste, elle n'aurait jamais imaginé non plus qu'elle serait jalouse d'un bateau. Allons, quelle sottise! Elle leva le menton pour déposer une touche de parfum sur sa gorge. Elle le huma d'un air critique. C'était une nouvelle fragrance prise aussi sur le grincheux. Épicée et sucrée, ça ferait l'affaire. Elle résolut de faire davantage confiance à Kenith. N'avait-il pas assez à penser sans qu'elle cède à la jalousie? Jalousie stupide en plus. C'était un navire, pas une femme. Elle parcourut la cabine en ramassant les affaires de Kenith. Il était toujours en train d'écrire ou de dessiner. Parfois, elle l'observait quand il le permettait. Ce talent la fascinait. Sa plume courait, grattait, en laissant des caractères si nets. Elle s'arrêta pour regarder quelques manuscrits avant de les enrouler et de les remettre sur la table des cartes. Comment se rappelait-il la signification de tous ces petits signes? C'était un talent masculin, sans doute. Depuis le pont, lui parvint la voix de Brigg qui donnait un ordre. Peu après, elle entendit le bruit de l'ancre qu'on mouillait. Ainsi, il s'arrêtait pour la nuit. Bien. Elle quitta la cabine et partit à la recherche de Kenith. Elle se dirigea vers le gaillard d'avant. Yémin était assis en tailleur à côté d'Opalin pour le veiller. Elle baissa les yeux sur le mousse blessé. Les points de suture avaient rapproché les lèvres de la plaie. C'était bien le seul avantage de leur travail. Elle s'accroupit dans un plaisant froufrou et lui tâta le front.
« J'ai l'impression qu'il a froid, »
fit-elle observer. Yémin leva la tête. Il était plus pâle qu'Opalin.
« Je sais. »
Il resserra une couverture autour de son patient. Il ajouta, plus pour lui-même que pour elle, « Il paraît si faible.
Le chirurgien a fait ce qu'il fallait, j'en suis sûr. Si seulement la nuit était plus chaude.
Pourquoi ne pas le descendre, pour l'abriter du froid ?»«
Je crois que c'est plus sain pour lui d'être ici à l'air qu'en bas. »
Elle inclina la tête vers lui.
« Tu crois que ton bateau a des pouvoirs de guérison ?»«
Pas sur le corps. Mais il prête à l'esprit de la force, qui contribue à la guérison du corps. » Elle se redressa avec lenteur, mais garda les yeux fixés sur lui.
« Je croyais que c'était ton Dieu qui faisait ça. »
En effet. Elle aurait pu alors se moquer de lui, lui demander s'il avait toujours besoin d'un Dieu puisqu'il avait un bateau.
« Va dormir, »
lui dit-elle.
« Tu as l'air épuisé. »«
Je suis fatigué, mais je vais rester avec lui cette nuit. Ce n'est pas bien de le laisser tout seul. »
« Où est passé le chirurgien ?»«
Il est retourné sur la Marietta. Il y a d'autres blessés. Il a fait ce qu'il a pu ici. Maintenant, tout dépend d'Opalin. »
« Et de ton navire ?»
ne put-elle s'empêcher d'ajouter. Puis elle jeta un coup d'œil vers le gaillard d'avant.
« Tu as vu, Kenneth ?»
Yéma lança un regard vers la figure de proue. Etta mit un moment à distinguer la silhouette du pirate car son ombre était fondue à celle de Vivacia.
« Ah !»
dit-elle à mi-voix. D'ordinaire, elle ne le dérangeait pas quand il parlait à la vive nef. Mais s'étant enquise de lui à voix haute, elle ne pouvait guère s'en aller simplement. En affichant un air désinvolte, elle alla le rejoindre près de la lisse de proue. Elle garda un moment le silence. Kenneth avait choisi de mouiller dans l'anse d'une des petites îles. Le grincheux se balançait non loin et la Marietta juste derrière lui. Quelques lumières brillaient dont les reflets zigzaguaient à la surface de l'eau. Le vent était tombé, mais une brise insistante faisait chanter le gréement. De la terre toute proche, les exhalaisons qui leur parvenaient des arbres et des plantes étaient aussi lourdes que l'odeur iodée de la mer. Etta finit par déclarer
« L'attaque s'est bien passée aujourd'hui. »«
Tu crois que je ne le sais pas ?»
répondit-il avec une pointe de sarcasme.
« Tu vas recommencer ? Te resservir de la passe pour les embuscades ?»«
Cela se pourrait. »
La brièveté de la réponse la découragea de poursuivre la conversation. Fort heureusement, la vive nef était silencieuse, mais Etta ressentait sa présence comme importune. Elle aurait aimé être à bord de la Marietta. Là, elle aurait pu essayer de se rapprocher de lui, d'attirer son attention. Ici, la vive nef était comme un chaperon. Même dans l'intimité de la cabine, Etta la sentait, là. Elle lissa sa jupe, appréciant le froissement et le bruissement de l'étoffe.
« Avant que nous soyons interrompus, nous discutions des plans pour demain. »
déclara brusquement Vivacia.
« En effet, » approuva Kenneth. « Dès l'aube, nous filons vers Partage. Il faut planquer le grincheux en lieu sûr jusqu'à la demande de rançon. Et je souhaite débarquer les esclaves qui étaient à son bord le plus vite possible. Alors, nous reprenons la route vers Partage. »
Il ne faisait pas attention à elle. Etta bouillait de jalousie, mais elle ne voulait pas céder le terrain.
« Et si nous croisons d'autres navires ?»
poursuivit la vive nef.
« Alors, ça sera à toi de jouer, » dit Kenneth à mi-voix.
« Je ne suis pas certaine d'être prête. Je ne sais toujours pas. Tout ce sang, cette souffrance, les humains ressentent si fort la douleur. »
« Je n'aurais pas dû amener Opalin à bord, » dit Kenneth en soupirant. « Mais j'étais inquiet pour le gamin, et je voulais l'avoir près de moi. Je ne pensais pas que cela t'affecterait. »«
Mais non, pas du tout, »
s'empressa de dire Vivacia. Kenneth continua comme s'il n'avait pas entendu.
« Je n'aime pas non plus le voir souffrir.
Mais de quoi aurais-je l'air si je tournais le dos à quelqu'un qui a été blessé à cause de moi? Pendant 4 ans, mon navire a été son unique foyer. Il voulait faire partie du détachement d'abordage aujourd'hui. Ah, si seulement Sir Cor l'en avait empêché.
Je sais qu'il l'a fait pour m'impressionner, poursuivit Kenneth d'une voix étranglée par l'émotion.
Pauvre petit gars. Tout jeune qu'il soit, il était prêt à se battre et à tout risquer pour ce en quoi il croit.
Il ajouta crispé.
J'ai bien peur de l'avoir tué. Si je n'avais pas entrepris cette croisade...
Etta ne put se contenir. Elle n'avait jamais entendu Kenneth s'exprimer ainsi. Elle n'avait jamais imaginé qu'il recela en lui un tel abîme de souffrance. Elle s'approcha et lui prit la main.
« Oh, Kenneth, » dit-elle doucement, « oh, mon chéri, tu ne peux pas te charger de tout, tu ne peux pas. »
Il se raidit comme sous un affront. La figure de proue lança à la femme un regard noir, puis il se tourna vers Etta qu'il stupéfia en enfouissant la tête dans son épaule.
« Et sinon quoi alors ?»
demanda-t-il d'un ton là.
« Oh, Etta, si je ne m'en charge pas, qui le fera ?»
Elle sentit son cœur chavirer de tendresse pour l'homme fort qui soudain s'appuyait sur elle. Elle lui posa la main sur la nuque. Ses cheveux étaient comme de la soie sous sa caresse.
« Tout va bien se passer, tu vas voir. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment et qui te suivront. Tu ne dois pas porter tout sur tes épaules. »
« Que ferais-je sans eux? Je ne pourrais pas continuer. »
Il réprima un sanglot qui lui secoua brièvement les épaules et toussa.
« Capitaine Kenneth !»
se reprit Vivacia bouleversé.
« Je ne voulais pas dire que je ne partageais pas votre idéal. J'ai seulement dit que je n'étais pas sûre d'être tout à fait prête. »
« Ça va, je t'assure, ça va. »
interrompit-il. Son ton laissait entendre qu'il ne tenait pas compte de ses paroles dictées par la simple courtoisie.
« Nous ne nous connaissons que depuis peu. Il est beaucoup trop tôt pour que je te demande de jouer ton destin avec le mien. Bonne nuit, Vivacia. »
Il poussa un long soupir.
« Etta, ma douce, j'ai mal à la jambe ce soir. Peux-tu m'aider à regagner notre lit ?»«
Bien sûr, » dit-elle touchée. Il serait plus sage d'aller se coucher. Il y avait de l'huile parfumée sur le grincheux. J'en ai pris un peu. Je sais que ta béquille te fait mal au dos et à l'épaule. Je vais réchauffer l'huile et te masser. »
Il se pencha vers elle alors qu'elle l'aidait à quitter la lisse. « Ta foi en moi me donne tant de force, Etta, » avoua-t-il. Il s'arrêta soudainement et elle l'imita, troublée. D'un geste étrangement résolu, il lui prit le menton, se pencha et l'embrassa avec lenteur. Elle fut envahie par un flot de sensations provoquées non seulement par le contact de ses lèvres et l'étreinte de ses bras, mais par la liberté de cette démonstration d'affection. Il promena les mains sur elle. L'étoffe de la jupe crépita sous ses doigts alors qu'il la tirait tout contre lui. Il l'honorait ainsi. Il manifestait ses sentiments aux yeux de tous en l'embrassant. Elle s'en sentit magnifiée. Il interrompit enfin le baiser, mais la garda enlacée. Elle tremblait comme une vierge.
« Yémin, » dit Kenneth à mi-voix.
Etta tourna la tête et aperçut le jeune garçon qui les regardait, les yeux écarquillés.
« S'il se passe quoi que ce soit avec Opalin cette nuit, tu viens me voir immédiatement. »
« Oui, capitaine, »
chuchota Yémin. Ses yeux allaient de l'un à l'autre, remplis d'une crainte respectueuse comme d'un désir ardent.
« Viens, Etta, allons nous coucher. J'ai besoin de te sentir tout près. J'ai besoin de sentir ta foi en moi. »
À ces paroles prononcées à voix haute, elle fut saisie de vertige.
« Je suis toujours à tes côtés, » assura-t-elle.
Elle lui prit sa béquille pour l'aider à descendre vers le Frantillac.
« Kenneth !»
s'écria Vivacia.
« Je crois en toi. Le moment venu, je serai prête. »
« Mais bien sûr, » dit-il poliment.
Bonne nuit, navire.
Ils mirent une éternité à traverser le pont et à parvenir à leur cabine.
Je vais réchauffer l'huile, tu veux ?
Proposa-t-elle. Mais alors qu'elle tenait le flacon sous la lampe, il s'approcha en boitant, prit la fiole qu'il mit de côté. Il regarda Etta un instant en fronçant les sourcils, comme si quelque chose le chiffonnait. Elle l'interrogea du regard. Il cala la béquille sous son bras et leva les mains vers sa gorge. Il se mordit la lèvre, les doigts empêtrés dans le fin ruban de sa chemise. Elle voulut l'aider, mais avec une étonnante douceur, il l'en empêcha. « Permets-moi, » dit-il tout bas. Elle tremblait tandis qu'il s'appliquait à venir à bout des liens et des boutons. Il lui ôta un par un ses vêtements, qu'il laissa tomber sur le plancher. Il n'avait jamais agi ainsi. Quand elle fut nue devant lui, il prit la soucoupe d'huile, y trempa les doigts. « Comme ça ? » demanda-t-il hésitant. Ses doigts laissaient des traces luisantes sur les seins et le ventre d'Etta. Elle haletait sous la légèreté de la caresse. Il pencha la tête et déposa un baiser au creux de sa gorge, puis l'attira doucement vers le lit. Elle se laissa volontiers faire, quoique perplexe devant ce comportement étrange. Il s'allongea près d'elle et l'effleura. Il ne la quittait pas des yeux. Observait la moindre de ses réactions. Il lui murmura à l'oreille « Dis-moi ce que je dois faire pour te plaire. » Elle fut bouleversée par cette manière d'aveu. Il n'avait jamais fait cela. Elle était la première femme à laquelle il eût jamais cherché à plaire. Elle retint son souffle. Soudain, elle fut emportée par l'érotisme de cette maladresse d'adolescent. Il n'opposa aucune résistance quand elle lui prit les mains qu'elle guida vers elle. Il ne s'était jamais soumis à ses initiatives. C'était grisant. Il n'était pas un élève doué. Ses caresses étaient hésitantes et trop douces comme du nectar de chèvrefeuille. Elle fut incapable de continuer à regarder son visage attentif. Elle craignait de se mettre à pleurer. Il ne comprendrait pas. Elle s'abandonna. Il apprenait, guidé par sa respiration rapide et les sons étouffés qu'elle ne pouvait retenir. Un sourire ravi flotta sur les lèvres de Kenneth et ses yeux se mirent à briller. Il découvrait que le pouvoir de procurer du plaisir à l'autre était une forme de domination. À mesure qu'il en prenait conscience, ses caresses devenaient plus assurées mais sans brutalité. Quand finalement leurs corps se joignirent, la jouissance d'Etta fut immédiate. Puis vinrent les larmes qu'elle ne put refouler. Il les essuya d'un baiser et recommença. Elle perdit toute notion du temps. Lorsque son corps fut rassasié et sensible au point que le moindre contact soit presque douloureux, elle déclara à mi-voix « Je t'en prie, Kenneth, assez. » Un lent sourire apparut sur les lèvres du pirate. Il s'écarta, et un air frais les effleura tous deux. Subitement, il se pencha sur elle et agita la mulette en forme de crâne qu'elle avait au ventre. Elle grimaça à ce contact. Le petit anneau de bois sorcier qui lui perçait le nombril la préservait à la fois de la grossesse et de la maladie. « On peut l'enlever ? » demanda-t-il brusquement.
« On pourrait, mais je fais attention, il n'a jamais... »
« Alors, tu pourrais être enceinte ?»
Elle manqua s'étrangler. « Je pourrais, » admit-elle prudemment.
« Bien, » fit-il en se rallongeant avec un soupir satisfait. « Il se pourrait que je veuille un enfant. Si je voulais que tu aies un bébé, tu ferais ça pour moi, n'est-ce pas ?»
La gorge serrée, elle murmura.
« Oh oui, oui. »
Au milieu de la nuit, Kenneth fut réveillé par un grattement à la porte.
« Qu'est-ce que c'est ? »
cria-t-il d'une voix rauque. À côté de lui, Etta dormait profondément.
C'est Yéma, capitaine Kenith. Capitaine, Opalin est mort. Il vient de mourir.
Voilà qui était fâcheux. Tout l'intérêt de l'affaire, c'était qu'Opalin souffre et surmonte la douleur. Il était censé représenter un exemple pour Vivacia. Kenith secoua la tête dans le noir. Et maintenant quoi? Était-il possible de sauver la situation?
« Capitaine Kenith !»
répéta Yéma sur un ton désespéré.
« Ne te pose pas de questions là-dessus, Yéma, » répondit Kenith à voix basse. « Accepte. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous ne sommes que des hommes, après tout. »
Il soupira, puis prit une voix inquiète.
« Va te reposer. Il sera toujours temps demain d'affronter le chagrin. »
Il marqua une pause.
« Je sais que tu as fait ce que tu as pu, Yéma. Tu n'as rien à te reprocher. »
Capitaine.
Au bout d'un moment, Kenith entendit s'éloigner les pas légers du garçon. Il se rallongea. Bon, que dirait-il au navire demain? Il parlerait de la noblesse du sacrifice d'Opalin qui donne du courage. Les mots lui viendraient s'il se détendait et croyait en son étoile. Il passa les bras sous sa tête et s'enfonça dans les oreillers. Son dos lui faisait atrocement mal. Il n'aurait jamais cru que les femmes avaient tant d'endurance.
Vivacia est folle de jalousie. Mais c'était bien ce que tu cherchais, n'est-ce pas?
Il se tourna légèrement vers l'amulette à son poignet.
Puisque tu sais tellement de choses, pourquoi poses-tu autant de questions?
Pour t'entendre reconnaître que tu es un mufle. Éprouves-tu le moindre sentiment pour Eta? Tu n'as pas honte de ce que tu lui fais?
Honte? Fit Kenith vexé. Elle n'est pas à plaindre. Au contraire, je lui ai donné une nuit qu'elle n'est pas près d'oublier.
Il s'étira pour détendre ses muscles douloureux.
Et je ne me suis pas ménagé, ajouta-t-il avec irritation.
Quelle performance!
Marmonna le petit visage de bois sorcier.
« Tu craignais que la vive nef l'ignore si Eta ne criait pas de plaisir? Je peux te l'assurer, Vivacia est parfaitement consciente de toi tout le temps. Ce sont les efforts que tu as faits à l'égard d'Eta et non le plaisir qu'elle a connu qui ont enflammé la jalousie de Vivacia. »
Kenith roula sur le côté et baissa encore la voix.
« Et alors? Et toi? Jusqu'à quel point as-tu conscience de la vive nef?
Elle se protège de moi,
admit l'amulette à contre-cœur.
Mais j'en aurais encore beaucoup à dire. Elle est trop grande. Elle est tout autour de moi. Elle ne peut pas se cacher complètement de moi.
Et Yéma, tu peux le sentir à travers elle? Qu'est-ce qu'il éprouve ce soir?
Quoi? Ça ne t'a pas suffi d'entendre sa voix quand il est venu t'annoncer la nouvelle? Il est anéanti par la mort d'Opalin.
Pas par la mort d'Opalin, dit Kenith avec impatience. Je l'ai vu nous observer quand j'ai embrassé Eta devant Vivacia. Cela m'a surpris. Il a des sentiments pour la putain.
Ne l'appelle pas comme ça,
grogna tout bas l'amulette.
« Si tu parles encore d'elle en ces termes, je ne dirai plus rien. »«
Il trouve Eta séduisante ?»
répéta Kenith avec insistance.
« Il est naïf, »
répondit le charme radouci.
« Il l'admire. Je doute qu'il ait la présomption de la trouver séduisante. »
La voix ténue s'interrompit.
Ta petite démonstration de cette nuit lui a donné à réfléchir, et il va l'opposer à la mort d'Opalin.
Fâcheuse coïncidence,
marmotta Kenith. Il se tut en réfléchissant aux moyens d'amener Yéma à prêter plus d'attention à Eta. Il lui ferait porter davantage de bijoux. Les gamins sont toujours attirés par ce qui brille. Il l'exhiberait comme une séduisante possession.
« Pourquoi lui as-tu posé cette question à propos d'un bébé ce soir ? »
demanda brusquement l'amulette. Une idée comme ça. Un enfant pourrait m'être utile. Tout dépend de la façon dont Yéma va se développer.
Le charme était confondu.
Qu'est-ce que tu insinues? Je ne comprends pas. J'imagine que si je comprenais, je trouverais ça révoltant.
Je ne vois pas pourquoi, lâcha avec désinvolture Kenneth qui se prépara à se rendormir.
En quoi un enfant pourrait-il t'être utile?
Le questionna l'amulette au bout de quelques minutes, puis, ne recevant pas de réponse, elle reprit
« Je ne me tairai pas tant que tu ne m'auras pas répondu. »
« La Vivnef serait heureuse avec un enfant, » finit par expliquer Kenneth après un soupir de lassitude.
« Si Yéma devient trop intraitable, s'il me met des bâtons dans les roues en empêchant le navire de m'obéir de son plein gré, eh bien, il pourrait être remplacé. »
« Avec ton enfant et celui d'État ?» demanda le charme incrédule.
Kenneth eut un gloussement sommeillé.
« Non, bien sûr que non. Tu deviens grotesque. »
Il s'étira, tourna le dos à État, se recroquevilla et ferma les yeux.
« C'est Yéma qui devra engendrer l'enfant. Ainsi, il sera de la famille du navire. »
précisa-t-il avec un profond soupir de satisfaction. Puis il se renfrogna.
« J'imagine qu'un bébé à bord sera bien embêtant. Ce serait plus simple si Yéma se décidait à accepter son sort. Le gamin a de grandes possibilités. Il réfléchit. Il faut seulement que je lui apprenne à penser comme moi. Peut-être vais-je l'emmener consulter l'oracle des autres. Peut-être pourront-ils le convaincre que tel est son destin.
Laisse-moi plutôt lui parler, proposa l'amulette.
Peut-être pourrais-je le convaincre de te tuer.
Kenneth gloussa avec satisfaction et se laissa emporter par le sommeil.